L'émission qui dévoile les enjeux politiques cachés derrière nos vécus intimes. Prête à plonger dans ces histoires qui façonnent nos réalités, installez-vous confortablement et rejoignez la conversation.
Aujourd'hui pour la deuxième émission de En filigrane, présentée par le journal étudiant La Ration. Cette émission vous est toujours présentée par Ninog.
Bonsoir.
Nolwenn.
Bonsoir.
Et moi-même, Solwenn. Nous accueillons aussi ce soir Juliette.
Bonsoir.
qui nous parlera de son vécu par rapport à un thème dans lequel nous pouvons tous, plus ou moins, de près ou de loin, nous identifier. L'alcool.
Ouh. On en fait toutes les sortes. Ça te dira de goûter ? Au pain. Ouais. Volontiers. Lequel, ambré ou blanc? Allons-y pour l'ambré. L'ambré, bien. Pas mauvais. Pas mauvais. Pas mauvais. C'est de la saloperie ce que je t'ai servi là. C'est bon pour les ouvriers, cette merde ambrée. Le plan, en revanche, c'est pour les patrons. Viens voir.
On vient d'écouter un extrait du début de l'épisode 2, saison 2 de Peaky Blinders, quand Tommy se réveille à l'hôpital et qui part à Camden Town, où il retrouve Alfie Salamance. Cette maxi-star, bref. Comme on l'a entendu, Alfie propose un verre de whisky à Tommy, qui choisit apparemment le moins bon, celui des ouvriers, ce qui lui vaut une moquerie de la part d'Alfie. Les pratiques du coup, de consommation d'alcool et leur représentation constituent un gros sujet, surtout, vous vous en doutez, dans notre super pays. Je n'en dirai mot. on peut s'accorder à dire que la consommation d'alcool en France est presque une institution. Petit point info. Du coup, on est le 12e pays plus gros consommateur d'alcool. Et ensuite, il faut sachez que selon Santé publique France, bravo ou pas d'ailleurs à nous, c'est en Pays de la Loire qu'on a le plus fort taux d'alcoolisation ponctuelle importante, donc le binge drinking, suivi par nos amis bretons.
Ouh.
Aussi, je suis sûre que parmi les quelques personnes qui nous écoutent, ou parmi nous, on a déjà entendu dire de notre oncle un peu border « Oh, il a une descente que j'aimerais pas remonter à vélo !» Ou alors « Pouais, quel sac à vin, tonton !» D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder un peu les consommations d'alcool à Noël, c'est bientôt les fêtes. Du coup, voilà, ces chiffres que je viens de vous épeler, ils tendent à diminuer ces dernières années, mais ils restent quand même importants et montrent bien l'influence et l'importance de l'alcool dans notre société. Ainsi, et comme le dit Alfie, on ne boit pas de la même manière en fonction de qui on est. Et l'alcool n'impacte pas non plus nos vécus de la même manière selon notre origine sociale. Cette réflexion ouvre un questionnement sur les pratiques de consommation d'alcool selon les classes et sur les représentations que l'on en a. Existe-t-il des pratiques différentes de consommation d'alcool selon les classes? Si oui, quelles sont-elles? Quelles sont nos représentations, conscientes ou non, de l'alcool? De même, existe-t-il un bien boire et ou un mal boire? Ces façons de boire et la représentation qu'on leur donne participent-elles à la stigmatisation de certaines classes sociales ?
En filigrane, du fil à retordre.
Du coup, pour rester dans l'univers des Peaky Blinders, nous allons écouter Ninog nous lire un poème sur l'alcoolisation à une époque d'industrialisation.
Oui, je dis avant que Ninog lise, avant de se plonger direct dans le sujet. C'est un poème donc de Émile Verhaeren, un écrivain belge flamand issu d'un milieu bourgeois catholique, qui va décrire dans ses vers le quotidien difficile des ouvriers, qui est un manque donc marqué par la misère et la pénibilité, où la seule échappatoire semble être le moment de vider une pinte. Et c'est un poème écrit en 1895.
Au carrefour, porte ouverte les bars, étain, cuivre, miroir à gare, dressoir d'ébène et flacons folles, d'où luit l'alcool et sa lueur vers les trottoirs. Et des peintres qui tout à coup rayonnent sur le comptoir, en pyramide de couronne, et des gens sous, debout, dont les larges langues lapent sans phrase, les ales d'or et le whisky tout couleur topaze. Part à travers les faubourgs lourds, et la misère en pleurs de ces faubourgs, et la trouble et morne voisinage, et les haines s'entrecroisant de gens à gens, et de ménage à ménage, et le vol même entre indigents, ronde au fond des cours toujours les haletants battements sourds des usines et des fabriques symétriques. Merci d'avoir écouté cette présentation plus ou moins, ma foi, théâtrale de ce poème.
C'était super.
Merci beaucoup. C'était laborieux, mais j'ai essayé. Donc, je finirai ce moment poésie par une réflexion qui, d'ailleurs, n'est pas de moi non plus, mais je le précise avant que la personne concernée me saute dessus. Si vous connaissez peut-être l'expression « qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse », eh bien, c'est de Alfred de Musset, donc on reste dans le cadre poétique. C'est quelque chose qui m'évoque le rapport que les classes populaires ont à l'alcoolisation, ou en tout cas tel que décrit dans le poème de Vera Rennes. Et on peut effectivement se demander si pour les classes supérieures, le flacon et le prix de la bouteille n'est pas censé importer davantage que les effets de la boisson. Donc je vous laisse réfléchir à ces sages paroles. Et je vous demande d'accueillir Juliette, qui a très aimablement accepté de venir répondre à nos questions.
Bonsoir, rebonsoir Juliette.
Bonsoir.
Alors, d'abord, on va commencer par une première question un peu globale. Quelle place occupait l'alcool, du coup, quand tu vivais...
Non, alors d'abord, pardon. est-ce que tu peux te présenter ? Et... ce que tu fais dans la vie, tout ça. Et est-ce que tu peux faire la même chose avec tes parents, s'il te plaît ?
Oui. Alors, du coup, je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans et je suis alternante. Mes parents, du coup, mon père est facteur et ma mère est éducatrice spécialisée et ils vivent tous les deux en Bretagne. Mon père, il a un rapport particulier avec l'alcool parce que ma grand-mère, elle tenait un bar, donc il a toujours fait son enfance là-bas, quoi. Donc voilà. Et tout ça dans le Finistère, donc dans la Bretagne bien profonde.
Ouais.
Donc voilà.
Ok.
Ok, du coup, je reprends après ce petit gloupi-boulga. Du coup, quelle place occupait l'alcool quand tu vivais avec tes parents, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'ils buvaient quand, pourquoi et toi, de quel œil tu le voyais quand tu étais petite ou même maintenant?
Du plus loin, je me rappelle, mes parents, ils ont toujours bu de l'alcool à la maison. Tous les soirs, c'était apéro. Ça commençait l'apéro très tôt. Hein. À 17h, 18h, ils avaient déjà un verre de rosé. Ma mère, elle a tendance à se calmer avec l'alcool, mais mon père, pas du tout. C'était le rituel, quoi. Quand il rentrait à la maison, c'était ça. S'il n'avait pas déjà bu avant, en rentrant du travail, avec les collègues, tout ça, c'était devenu un petit peu l'habitude.
Ouais.
Et ouais, c'était du rosé. Et c'est ça depuis que je suis toute petite, quoi. Et avant, moi, je trouvais ça normal. Parce que je parlais pas forcément de ça avec mes copines à l'école et tout. Forcément.
Et toi, ton père, il descend chez toi.
Exactement. Et... je sais plus ce que je disais.
Que tu parlais plus de
ça avec tes copines. Que je parlais pas de ça avec mes copines. Et du coup, pour moi, c'était un peu la normalité que mon père boive, qu'il soit énervé quand il boit. Enfin, c'était juste normal.
Mmh.
Et c'est après, arrivé à l'adolescence, que je me suis rendu compte que c'était juste pas normal. Et puis, c'était devenu très compliqué à une période, notamment quand je suis arrivée au lycée. Parce que je changeais d'établissement, je changeais de copains, je changeais un peu de tout. Et c'était une période où je me sentais ni bien à l'école, ni bien chez moi, parce que du coup, je commençais un peu, plus je grandissais, plus à me rendre compte que mon père était alcoolique, quoi, et que il criait beaucoup, il avait l'alcool assez mauvais, etc. Donc, c'est une période assez compliquée pour moi.
Ouais. Peut-être que tu te rends compte aussi à ce moment-là qu'en fait, c'est pas dans toutes les familles comme ça.
C'est ça. J'ai quelques copines qui vivaient ça, mais pas à ce point. Enfin, boire un verre tous les soirs, pour moi, c'était normal, quoi. Ouais. Enfin, c'était juste la base, alors que pas du tout. Et ouais, il y a eu un moment où j'en ai eu presque marre. J'ai dit à ma mère d'en parler à mon père, parce que moi, évidemment, j'avais trop peur de lui en parler, parce que j'avais peur de ses réactions, parce que je voyais très bien, dès que je rentrais de l'école, quand il était alcoolisé, je le voyais dans ses yeux, je le voyais, quoi. Et du coup, j'avais posé un peu un ultimatum à ma mère en lui disant que s'il continuait comme ça, bah, fallait faire quelque chose, parce que sinon, ça allait pas être possible. Et elle lui en a parlé, ça a un peu évolué pendant quelques mois, et ça a repris très peu de temps après, parce que bah, il a jamais voulu voir de médecin. Pour lui, il est pas alcoolique, en fait. Lui, c'est juste normal. Toute sa famille, elle a toujours bu. Son père, c'était pareil, il était alcoolique aussi. Sa mère, elle tenait un bar, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'était normal pour lui, quoi.
Les familles bretonnes, quoi.
C'est ça. Exactement. Voilà.
Est-ce que tu penses que ton expérience, elle a un peu façonné le rapport que tu entretiens à l'alcool aujourd'hui ?
Je pense indirectement, parce que j'essaye de ne pas être comme lui, du coup, parce que ça m'a donné une image hyper négative de l'alcool en général, de boire, etc. Donc, quand je bois, je connais mes limites, je sais... quand c'est trop, et puis je sais qu'à partir du moment où je vais commencer à boire toute seule, c'est là que je vais avoir vraiment peur d'être comme mon père, quoi. Et c'est un truc que j'ai pas envie, même si j'ai pas d'enfants, j'ai de la famille, mais je vis pas avec eux, voilà. Oui. Mais ouais, non, du coup, j'essaye de faire gaffe, mais il y a eu une fois, j'ai une anecdote par rapport à ça, il y a eu une fois où j'étais avec les amis de mes parents, Et il y a une des amies de ma mère, de mes deux parents d'ailleurs, qui est venue me voir, et j'étais un peu alcoolisée, enfin j'avais bu un peu mais pas non plus des masses, et qui est venue me voir et qui m'a dit « Oh là là, tu me fais penser à ton père ». Et
coup dur.
C'était dur à entendre, j'étais un peu en mode « Ah non, non, me dis pas ça ».
Retire ce que t'as dit.
Ouais, exactement, parce que c'était vraiment l'image que j'avais pas envie d'avoir, quoi. Être comme mon père quand je bois, enfin, horrible. Donc voilà.
Eh bien, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. On va maintenant faire une petite pause musicale et écouter une voix qui nous est bien connue, surtout en France. Georges Brassens, sur le titre Le Vin.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sobre. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, aux noblesses sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on éteint ça, j'ai qu'on a dû savoir boire. On se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux, bien dit que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui t'a tâche qu'elle donne du vin. J'irai voilà. Traire enfin les vaches que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Donc on le sait, nos visions du monde et la façon dont les autres nous perçoivent sont souvent façonnées par nos appartenances sociales. Et l'alcool et sa consommation n'en font pas exception. Ainsi, on ne pose pas le même regard sur un chef d'entreprise qui boit un verre de vin rouge à un repas d'affaires que sur un SDF qui boit sa canette de 8-6 seul dans la rue. Donc pourtant, on peut se demander, bah, les deux font la même chose, boire de l'alcool. Alors pourquoi il y a une différence dans nos regards qui sont souvent empreints de jugements moraux ?
Du coup, moi j'ai une petite anecdote là-dessus. Waouh, j'ai rigolé trop bizarrement. Bref. Parce que par exemple, je suis une bonne vivante. Et j'aime bien le Ricard. Et le Ricard, c'est genre connoté maxi, genre beauf et tout. Alors que, enfin, en vrai, c'est juste un alcool et à la base des bases, il n'y avait pas forcément toute cette connotation. Et du coup, enfin. Voir le fait que je sois une meuf la vingtaine et que je dise j'aime bien le Ricard et tout ça, je commande un Ricard, même les serveurs ils sont en mode qu'est-ce qu'elle veut celle-là, ok, la pétanque après. Sort et du coup je suis en mode, enfin il y a grave une connotation sur genre déjà boire de l'alcool, même quand t'es une meuf d'ailleurs ou pas, enfin quoi que ça dépend, mais genre des alcools genre le Ricard en mode c'est plus un truc de daron quoi. Ouais. Et du coup voilà mon anecdote sur les usages de l'alcool et le fait que du Ricard et tout. Bref,
merci.
Ça dénonce.
En filigrane, intime et politique.
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un texte de Ludovic Gosso qui s'appelle « Les représentations de l'alcoolisme et la construction sociale du bien boire », qui a donc été publié en 1998. C'est un texte qui va proposer une analyse des perceptions sociales et culturelles de l'alcoolisme, ainsi que les normes associées au bon ou mauvais usage de l'alcool. Gosso va particulièrement s'intéresser à la manière dont ces représentations sont construites et influencées par des facteurs sociaux, historiques et culturels. En France, qui est un pays qui occupe une place élevée dans la liste des pays les plus consommateurs d'alcool, la consommation d'alcool, même si on ne dirait pas au premier abord, elle est très codifiée.
Ah, désolée. Ok. Du coup, en fait, on devrait plutôt parler d'un savoir-boire, d'un genre de technique qui sert à qualifier le bon français, qui évalue à la fois son pouvoir de performance, son contrôle de lui-même et sa sociabilité, genre.
Ouais, voilà. En fait, c'est pas seulement une question de quantité, c'est surtout une question de cadre. Ce qu'on va considérer comme savoir-boire, ça va venir à la fois interdire l'abstinence et interdire l'excès. On voit que les représentations de l'alcool et de ceux qui boivent, c'est le fruit de constructions historiques et sociales. Et donc, elles varient selon plein de facteurs comme l'époque, la région, la classe sociale, le genre ou même l'âge.
On sait aussi d'ailleurs qu'au XIXe siècle, l'alcool s'est vu comme un fléau social, comme un genre de poison des classes populaires et que les mouvements dits de la tempérance essaient d'éradiquer, quoi. C'est... En gros, la période de l'hygiénisme social, comme on l'appelle, et c'est seulement plus tard, vers le 20e, qu'on va reconnaître l'alcoolisme vraiment comme maladie, en fait. Parce qu'on passe d'une conception morale au paradigme dit médical. Donc déjà, ce fait-là, ça montre bien que les représentations évoluent.
Ok, mais du coup, à quoi elles ressemblent ces représentations concrètement ?
Gosso, il va s'appuyer sur l'enquête qu'il a réalisée auprès de personnes de classe moyenne et supérieure. Et il va remarquer que dans leur discours, il y a deux grandes figures de l'alcoolisme qui ressortent. Donc, la première, c'est l'ivrogne, c'est une figure repoussoire de l'imaginaire collectif qui va être incarnée par le SDF, le clochard. Il est symbole de déchéance sociale et morale. Il représente ce qu'on ne veut pas être. Et ça sert de, enfin, il va servir de menace à ce qu'on pourrait devenir si jamais on dépasse les limites. Donc l'ivrogne, il est alcoolique, on le sait, parce que les manifestations qui le montrent sont visibles, elles sont bruyantes, parfois brutales, violentes, dramatiques. Enfin, en gros, elles dérangent. Et on va porter sur lui un regard très jugeant, avec une dimension morale. On va le rejeter socialement. On va se dire que s'il est là, c'est parce qu'il a choisi son état par vice. Et donc, il y a cette figure de l'ivrogne. Et la deuxième figure, ça va être celle du malade alcoolique. Donc lui, c'est un égal en difficulté. On va le plaindre, il est malade. On porte sur lui une conception qui va être plutôt médicale. En fait, on va le voir comme dépendant de la chimie de son corps. Et donc lui, on doit l'aider à remonter la pente. Contrairement à l'ivrogne, le malade alcoolique, pardon, il boit en cachette. Sa consommation, elle se fait plus discrète, voire honteuse. Et on ne sait pas bien qui il est, en fait. Il est partout et il est nulle part à la fois.
Donc finalement, ce qui va différencier l'ivrogne du malade, c'est même pas la quantité d'alcool ingurgité, en fait, parce qu'il y a un excès dans les deux cas, quoi. Ce qui compte surtout, ça va être la manière de le faire et à quel point tu te maîtrises dans l'espace social.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. En gros, Gosso, dans son enquête, il a vu que dans les discours des gens, ce qui va ressortir, c'est qu'il y a une manière de bien boire et une manière de mal boire. Donc le bien boire, c'est par exemple connaître les bons produits et les apprécier. Par exemple, boire du vin pour l'amour du vin et surtout le faire dans des circonstances et des lieux où c'est socialement accepté, voire valorisé de le faire. Donc un dîner entre amis, un événement festif, etc. Mais pas que. En fait, il y a aussi une dimension de tenue du corps. Tu peux boire, oui, mais il faut garder une bonne diction. Savoir se tenir debout, ne pas avoir l'air trop bourré, en gros.
Ok, donc en gros, on peut se s'enquiller la gueule, hein, désolée pour l'expression, mais de manière distinguée.
Ouais, voilà, en gros, c'est exactement ça. Et du coup, bah, le mal boire, ça va être l'opposé. C'est boire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et un peu de n'importe quelle manière. Et c'est une consommation qui va être beaucoup plus visible. Enfin, genre, la personne est visiblement alcoolisée, elle titube, elle bafouille, etc.
Ouais, bah, ça explique ce que mon poète flamand de tout à l'heure rattache ce genre d'attitude aux classes populaires, quoi, parce que du coup, quelque part, ce qu'on juge quand on juge un individu qui boit, c'est pas ce qui boit ou le fait qu'il boive, c'est sa classe sociale, quoi. Mal boire, finalement, c'est un peu un truc de pauvre.
Oui, voilà. En gros, c'est ça. Et Gosso va même jusqu'à dire que dans les classes populaires, l'alcoolisme est souvent interprété de deux façons. Donc, d'un côté, il y a la figure de l'ivrogne qui est donc responsable de sa misère. C'est de sa faute s'il est comme ça. C'est parce que il manque de volonté. Enfin, il n'est pas assez fort, etc. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir une vision davantage misérabiliste sur. Enfin, la surconsommation, elle est jugée normale compte tenu des conditions de vie. On se dit, évidemment qu'ils boivent, en fait, ils sont malheureux, ils n'ont rien. Leur consommation d'alcool n'étonne pas. Alors que quand on appartient aux classes moyennes et supérieures, puisque rien ne justifie la surconsommation d'alcool, puisque tu es censé avoir un emploi, une famille, une vie plus ou moins épanouie, si tu bois, c'est forcément que tu es malade et donc que tu as le droit à une prise en charge médicale. Donc, vous l'aurez compris, les pratiques de consommation d'alcool et les représentations qu'on porte sur elles sont le fruit de constructions sociales. La vision que renvoie une personne qui boit dépend en réalité moins de sa consommation réelle d'alcool que de sa place dans l'espace social et de si son image correspond ou non aux stéréotypes qu'on s'en fait.
En filigrane, intime et politique.
Ok, et merci beaucoup Nono pour nous avoir expliqué tout ça sur ce petit texte de Gosso.
petit, il faisait 40 pages.
Ah, et bien ce long et fastidieux texte de, de 98 en plus, donc pas...
Non, bah, pas la meilleure manière de parler, ouais. Pas la plus compréhensible en tout cas.
Le mec qui a pris Bourdieu, il a fait ok, ça marche. Bref, mais du coup ce que tu disais à la fin sur les représentations, en mode c'est pas combien tu bois qui compte, ouais. C'est genre la personne qui boit. Un peu, enfin, c'est non.
Oui, bah c'est, oh, oui, c'est ça. Épine, mais... c'est pas la quantité ingurgitée quoi, c'est plus
oui.
Ce que tu bois, comment tu le fais, etc.
Bah ça m'a rappelé une anecdote, bah quoi, j'ai vécu avec Juliette d'ailleurs il y a genre 2 ans je crois, c'était au bord de l'Erdre. Et en mode, bah, on prenait juste un verre là, sur les petites plateformes en bois, machin, bref, on buvait tranquillou, il y avait plein de groupes, c'était l'été quoi.
Ouais, il y a tout le temps plein de
groupes. Et genre, il y avait un mec, je sais pas, bah, je crois qu'il était SDF.
Ouais, bah, il était déjà posé là, il dormait.
Ouais, ouais.
Bah, je sais genre, pas, je pense qu'il est, oui, il était sans abri, je pense. Hein.
Ouais. Et bah, du coup, bah, il buvait sa bière, quoi, tranquillou.
Comme nous tous.
Et il commençait à être assez bah, alcoolisé au bout d'un moment, enfin, genre. Et il tombait genre littéralement sur les groupes d'à côté et enfin
ouais,
genre
c'est comme s'il cherchait de l'aide un peu genre
ouais ça se voyait qu'il était pas
il criait les gens ils avaient peur de lui c'était
et du coup genre il y a un moment en fait je me souviens vraiment plus trop de comment s'est passée la soirée genre c'était un peu
bah,
genre
c'était bizarre mais bizarre de fou. Moi je me rappelle que il commençait à crier un peu à tomber sur des gens il y avait un autre groupe de personnes à côté de nous.
Un groupe de mecs.
Bah, il y avait des mecs et des meufs, mais je sais
bah, que. Il tombait sur les meufs.
Ouais. Et du coup, c'était un peu les mecs qui essayaient de le calmer.
Ouais.
Parce qu'il commençait vraiment à tituber, à crier partout et tout. Et puis est venu le fameux.
Mais oui, et le moment où bah, genre, il a commencé à enlever ses chaussures et tout, et à dire je vais sauter dans l'eau et tout. Et nous, du coup, on était en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et bref, et du coup, bah, on essayait de l'empêcher, enfin normal.
Ouais, mais nous, on pouvait rien faire. En vrai, il avait l'air vraiment déterminé à le faire. En plus, c'est ça qui faisait peur. Il faisait peur, quoi. Et il y avait 2 personnes sur lui. Et
vraiment, les 2 mecs là, qui l'ont tenu au sol.
Il était déchaîné, quoi. Il voulait vraiment sauter, quoi.
Et du coup, on s'était demandé avec les autres gens qui étaient là au bord de l'Erdre en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire en mode pour lui, pour essayer genre, de l'aider, mais tu sais, du coup, un peu la démarche paternaliste en mode tu dois l'aider et tout. Et...
Mmh. Bah après, là,
mais en même temps, il allait sauter dans l'eau. Bref, et du coup, on s'est dit pourquoi pas appeler les pompiers? Parce qu'il y a des gens, ils ont dit on va appeler la police. On était en mode bah, du coup, ça va pas trop l'aider quoi.
Ouais.
Et du coup, on a appelé les pompiers
en pensant que ça serait mieux.
Oui, en pensant que ça serait mieux. Plot twist. Et du coup, bah, déjà, les pompiers, ils ont mis genre masse de temps à arriver alors que c'était genre le mec. Ouais, non, mais genre le mec voulait genre vraiment se jeter à l'eau dans l'Erdre, genre. Pas la meilleure eau, voilà, c'est pas trop, pas trop une piscine olympique. Et bref, du coup, ils sont arrivés et tout, et ils étaient en mode, ouais, c'est qui? Mais c'était trop, genre, vilain, les saoulés. Pompiers, ils étaient saoulés, genre, ils voulaient pas être là, alors que, enfin, c'est un peu leur taf, quoi.
Ouais.
Et,
alors qu'ils avaient compris qu'il y avait un mec qui était sur le point de...
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui, on leur a expliqué genre, hôtel, au téléphone et tout, plein de fois, et ils étaient en mode, ils hésitaient même à venir en mode, vous êtes sûr que c'est à ce point? Donc, oui, c'est à ce point.
Ouais. Et bref, et du coup, ils arrivent et tout, et ils disent en mode, ouais, c'est qui? Bref, mais en mode hargneux un peu,
tu sais.
Et du coup, on leur dit, bah, c'est le monsieur qui est là et tout, et ils font, enfin, tu sais, ils vont le voir, et ils disent,
lève-toi,
tu fais semblant, nanana, des trucs comme ça.
Ouais, ils étaient en train, limite, de lui mettre des coups de pied, en mode, bah, c'est bon, arrête, tu fais exprès, là, c'est bon, on sait que tu fais exprès.
Et
grave.
Et pour l'emmener, alors que bah, le mec voulait pas forcément partir avec les pompiers, quoi, genre, ils l'ont choupé.
Pardon.
Ils l'ont jamais par le callback et genre ils l'ont traîné dans des pavés, genre qui font mal, genre. Enfin, je sais pas, c'était horrible.
Ouais, ils l'ont traîné de fou.
Ouais, en fait, ils se sont dit, oh putain, encore c'est un autre SDF qui nous casse les couilles à être bourré. Et genre, ça les faisait chier, quoi.
Ouais, vraiment.
Alors que.
Le mec était visiblement. Il cherchait visiblement en détresse. De l'aide, quoi.
Littéralement.
Ouais, vraiment. Il cherchait de l'aide.
Alors que, je sais pas, j'ai l'impression en mode quand t'es jeune et que, je sais pas, tu sais, t'as tes potes ou quoi qui sont trop bourrés, que tu commences à paniquer en mode oh là là, est-ce un coma? Et que t'appelles les pompiers, ils arrivent un peu en mode leçon de morale, c'est des jeunes, vas-y, tu sais, genre carrément. Moins saoulés. Alors que là, c'est, bah, le mec.
Ah, mais ils le prennent plus au sérieux, ouais.
Ouais,
quand mais c'est des jeunes.
Ouais, alors que là, enfin vraiment, le pauvre monsieur, genre.
Ouais, c'est horrible.
En mode, enfin, il voulait à la base se jeter dans l'eau, quoi.
Ouais. Et quand on leur disait, ils étaient en mode oh, vous savez.
Ouais, comme en mode ça, c'est la vie, quoi.
Là, bah, non, c'est pas la vie. Genre. Le mec est déjà à la rue, il est déjà en détresse. Si quelqu'un peut le prendre en charge, c'est bien vous. Donc, essayez d'y mettre un peu du vôtre. Ça serait pas mal.
Ouais, vraiment.
Mais, Pardon, tu voulais.
Vas-y.
Ouais, bah moi sur un peu le sujet aussi de, enfin bon du coup c'est pas trop la même chose, mais le regard paternalisant et enfin paternaliste et misérabiliste qu'on porte un peu sur les personnes de classe populaire, enfin les personnes précaires et surtout les SDF qui boivent. Je pense que on a déjà tout un peu entendu quelqu'un qui disait oui non mais moi je veux pas donner de l'alcool aux SDF je veux pas donner de l'alcool je veux pas donner de l'argent aux SDF parce que
imagine
ils s'achètent de l'alcool avec
et toi Denis t'achètes quoi le soir hein ta petite bouteille de rouge
non mais voilà et du coup il y a un peu cette dimension de en fait il n'arrive pas à se gérer tout seul donc c'est moi qui dois prendre en charge le truc et ah non j'ai pas lui donner mon argent ça enfin ce sera bien pour lui quoi. Et moi, ça m'a fait un peu penser... Enfin, je trouve que c'est bien représentatif du regard qu'on porte sur les classes populaires de manière générale, pas seulement pour l'alcool, parce que bah, ça a tendance à être un peu toujours ce truc-là, de ce regard paternaliste. Et en fait, même avec leur argent, il y a beaucoup de conceptions où on se dit si les pauvres sont pauvres, en gros, c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur budget, ils font n'importe quoi avec leur argent, quoi. Et il y avait même, alors bon, la timeline, je ne sais pas vous dire quand c'était, mais une politique publique pardon, qui avait été mise en place par le gouvernement pour en gros aider les classes populaires à gérer leur argent tellement c'était ancré l'idée que c'est parce qu'ils ne savaient pas gérer en fait. Et c'est, voilà, c'est juste fou quoi.
On dirait le revers de la médaille de la méritocratie.
Ouais, c'est double un peu ça, standard.
Non mais oui. Et comment je reviens sur l'alcool, enfin sur l'alcool, sur ce qu'on boit très précisément, parce que dans ma tête il y a trop une sociologie un peu qui peut être faite aussi de
l'alcool.
Oui, de l'alcool en soi, des différentes liqueurs, etc. Genre si, enfin par exemple l'image de l'ivrogne, on l'associe souvent à la canette et particulièrement la 8-6, alors que franchement.
Quel banger quoi.
Mais totalement. Et même les façons de boire aussi. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça comment on tenait véritablement un verre de vin.
Ouais, moi aussi.
Apparemment.
N'importe quoi. Il n'y a rien d'ergonomique là-dedans.
Mais c'est pour Paris, je fais le vin, la team. Mais c'est comme. Mais, désolée.
Non,
mais
vas-y.
Ils ont fait de la 8-6 à la cerise.
Ah, mais ça, oui, c'est, non, mais c'est attendez, la gentrification.
Parce que la 8-6 se gentrifie parce que maintenant il y a de la 8-6 en bouteille déjà, genre des packs de 8-6. Ah, et effectivement, il y a des 8-6 à la cerise, enfin 8-6 red en mode genre. Allô.
Mais vraiment, c'est. Enfin,
ça aussi, ils veulent nous le prendre ou.
Non, mais l'embourgeoisement de la 8-6, qui l'aurait cru, genre.
C'est vrai.
Alors que, enfin, la 8-6, quoi.
La 8-6.
C'est marrant, je trouve. Ouais.
Mais c'est clair qu'il y a trop un truc associé à chaque alcool et tout. Ouais. Et genre, la 8-6, oui. Et la canette, oui, aussi. Moi, j'ai bu pendant longtemps de la 8-6 en canette. Et ça m'est arrivé plein de fois d'aller à des soirées, tu sais, où tout le monde doit ramener des packs un peu pour tout le monde, quoi. Et moi, je ramenais mes canettes, quoi. Et quand je les sortais de mon sac, mes canuches... On me disait, mais ah ouais, d'accord, toi t'es en mode.
Sérieux
en mode,
quoi?
Ouais, voilà, t'es sur le ton de la rigolade, mais tu sens qu'il y a un peu un truc derrière en mode waouh, ok, c'est sérieux, du vrai.
Ils associent ça direct à un mode bière de SDF.
On me l'a dit plein de fois d'ailleurs, c'est de la bière de clochard et tout.
C'est comme le bail du Ricard en soi, en mode tu sais, ah bah d'accord, un petit ricou quoi.
Ouais, c'est ça, truc de PMU là.
Ouais. Et même, je me souviens quand j'ai commencé à vous connaître là, Ninog et Nolwenn, en mode vous preniez déjà des canettes quand on allait, genre quand on sortait le soir et tout, non, j'étais en mode. Ah ouais, les canettes. Ah ouais. Moi, j'avais jamais vu de canette de ma vie. Là, j'étais à ma petite bouteille en verre. Non, canette. Mais finalement, je me suis mise aux canettes. C'est vrai que c'est beaucoup plus ergonomique, comme tu disais.
Complètement.
Beaucoup plus sympa, le rapport qualité-prix.
Plus économique,
ouais.
Plus sympa. Grave.
Mais oui, et comment, juste les endroits aussi où on boit cet alcool, c'est ce que tu disais, Nono, mais... moi-même pendant les manifs, alors que s'il y a bien un endroit où je me trimballe avec ma canette comme ça... sans honte dehors, c'était les manifs. Mais il y a toujours un truc où, en fait, quand je sors dans la rue en buvant, visiblement, j'y vais pas l'esprit léger comme si je faisais rien. Il y a quand même un truc où, alors, je pense pas que c'est trop à voir avec le fait que les flics puissent me dire pas d'ivresse sur la voie publique. Je pense que c'est vraiment lié à une espèce d'appréhension ancrée en moi de
l'image qu'on va t'assigner.
Ouais, c'est ça. En
mode... Regarder les autres.
Ouais, complètement.
Après, en manif, il y a littéralement genre des. des camions qui servent du vin, genre.
Ouais, c'est vrai. Même là, tu vois, tu sais, quand tu vas... Enfin, c'est un peu le moment où, j'avoue, je me sentais un petit peu folle. Tu t'arrêtes au Monop, tu reprends la marche avec tes trois canettes de 8-6 dans ton sac. Et puis voilà.
Oui, mais en fait, c'est un peu ça. Enfin bon, j'ai pas eu le temps de le dire trop dans le... Enfin, je sais pas si on comprenait trop quand je l'ai dit dans la chronique. Mais en gros, c'est ça qui différencie un peu l'alcool de... la consommation d'alcool dans les classes les plus précaires et la consommation d'alcool plutôt dans les classes élevées, c'est que bah, du coup, il y en a une où c'est visible. En fait, tu bois dans la rue, tu bois dans les bars, etc. Mmh. Quoique encore dans les bars, c'est plus accepté parce que c'est fait pour, mais ça dépend pour qui. Et alors que, tu vois, tu es en classe moyenne sup, tu bois chez toi, avec tes amis. C'est un truc fermé, personne ne te voit, tu vois. Mm. Et du coup, on regarde beaucoup, on a tendance à regarder d'un mauvais œil quand c'est visible, en fait. Mm. Du coup, c'est un peu, allez-y, buvez autant que vous vouliez, mais pas devant moi, tu vois, je ne veux pas le voir.
Ouais, carrément. Mm. Bah, pardon. Non, vas-y. L'autre jour, nous-mêmes, on l'a fait. On était toutes les quatre ensemble, d'ailleurs, avec une autre amie à nous. Mais on a eu une attitude qui m'a fait penser au podcast. C'est-à-dire qu'on s'est rejoint au café vers 17h, alors qu'on allait au bar après. Mais au café, on a pris des verres de blanc. Genre. Et ensuite, on est allé seulement au bar désigné dans notre tête comme bar, comme lieu où c'est accepté qu'on s'enivre et qu'on se la mette, etc. Mmh. Mais c'était complètement... c'est pas une consommation, propagande pour boire davantage. Et plutôt, les enfants, calmons-nous. Mais on est allé au café histoire d'eux pour quand même consommer de l'alcool et ensuite bouger dans un bar où là on était là en mode c'est bon, oui. Je vais prendre ma petite pinte.
Il y a pas sauvé l'alcool.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Ouais. Même, je pense qu'il y a une analyse en vrai qui serait assez marrante et intéressante à faire par rapport à ça. Comme tu sais, au café, on boit le blanc, etc. Mm-hmm. Mais. Vu que c'est un café, à la base, tu bois du café. Et il y a une certaine heure à partir de laquelle c'est socialement accepté genre, de prendre l'apéro, tu vois, genre vers 17h, 17h30, 18h, c'est accepté de boire du vin. Mm-hmm. Et en même temps, tu as les autres gens qui finissent de boire leur café, tu sais, et ce serait grave intéressant de voir qui boit le café, qui boit le vin, qui boit la pinte. Enfin, genre, je sais pas, c'est pour comprendre ce que je veux dire.
C'est
en mode,
d'établir, par exemple, de profiler les gens un petit peu, tu veux dire.
De faire d'ethnographie, tu vois.
je pars un peu du sujet, mais j'ai trop un truc, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais ma grand-mère, la dernière fois, elle m'a fait trop rire, genre, il était, 16-17h, et on voulait se poser dans un café-bar, mais pour prendre un verre, quoi, et j'ai voulu prendre un verre de vin pour être un peu fancy, voilà.
Ah déjà, tu vois, pour être un petit peu fancy, le vin.
Et elle m'a dit, ah bah non, tu vas pas prendre du vin à cette heure-là, alors qu'elle venait de commander sa pinte de bière, tu vois. Et j'étais là, mais pourquoi ? Enfin, elle dit, parce que le vin, c'est à l'apéro.
Ça se mange.
Ça se boit à l'apéro. Bah,
Christiane,
et j'étais là, mais ça change rien, genre c'est de l'alcool. Enfin, tu vois, si tu bois une bière à cette heure-là, je vois pas pourquoi le vin, ce serait... Enfin, bon. Mais du coup, en mode, il y a vraiment des trucs où c'est... Enfin, il y a des temps précis pour boire tel alcool et tout, c'est plus... où c'est acceptable et où ça ne l'est pas, quoi.
Mais c'est très très codifié en France, qu'est-ce qu'on boit, à quel moment, etc.
Sur ça, genre, je sais pas si, par exemple, il y a Noël qui arrive bientôt. Mmh. Je sais pas si vous, dans vos familles, c'est un peu pareil, mais nous, par exemple, on commence genre quand on arrive tous, parce qu'on fait ça dans la maison de quelqu'un, soit en Bretagne ou chez nous, là, à Nantes. Mmh. Et bref, on arrive vers 16-17h, petite bière. Petite Saint-Erwan, je crois. Je sais pas ce que c'est le nom, là. Bref.
Saint-Erwan,
oui, et après, on commence l'apéro. Donc là, petit champ, petit vin. Mmh. Et pendant le repas, vin. Et genre, fin du repas, vers minuit, 1h, Dijon. Ou petite bière pour les enfants qui restent jouer au jeu après.
Ah, c'est marrant, ça, parce que moi, dans ma famille, c'est...
Il y a grave un temps des alcools, genre.
C'est la bière, il y a que... Enfin, du côté de mon père, parce que du côté de mon père, on est des gros buveurs, et à chaque fois, les réunions, les repas de famille, c'est accompagné par des flots et des flots d'alcool. Mais ma tante et moi sommes les désignées buveuses de bière. C'est-à-dire que les autres boivent du vin, du mousseux, etc. Mmh. Mais toutes les deux, je crois que c'est associé au fait que dans leur tête, on est un peu les babos. Non, les babos de la famille. Et du coup, genre à chaque fois, vraiment, là, je vais y avoir droit à Noël. Hein, mais ça va être, bon, Ninog, on a pris un pack de bière pour toi et ta tante. Ok, sympa. Kato, je viens par ici, on va se la mettre.
T'avais pas reçu un pack de bière l'année dernière
à Noël. Si, oui, complètement, justement, parce que je suis catégorisée comme ça dans la
mythologie. En mode, c'est trop bien. Du coup, tout le monde boit du blanc et vous buvez de la bière ?
Non, pas forcément du blanc, mais du mousseux, etc. Et en fait, la bière, je pense qu'ils ont cet imaginaire de c'est quelque chose de rustique, c'est quelque chose de tu vois, babos, etc.
Donc si t'en bois, c'est que t'es... Ou alors, ils t'offrent de la bière parce que...
Non, ils en prennent pour moi, parce qu'il n'y a que moi qui en bois, moi et ma tante.
Ah oui, d'accord, ok. Pardon, j'avais mal compris.
Pas de souci.
Oui, alors, moi, je voulais juste dire aussi, avant d'oublier que ça sort de ma tête, quand on parle des lieux où c'est acceptable de boire et tout, en fait, je trouve ça marrant parce que ça dépend de qui on est. Genre, il y a des lieux, les bars, où c'est fait pour ça, tu vois. Donc, c'est acceptable de boire là-bas. Et encore, ça dépend qui, parce que... Bon, nous, les jeunes en études et tout, c'est assez normal de nous voir ici. Mais déjà, niveau genre, tu vois, je sais pas, une femme de la cinquantaine qui s'assoit toute seule à la table pour boire un verre, je pense que déjà, ce sera un peu moins accepté. Mmh. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est les PMU. Genre, les PMU, c'est pareil. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est un endroit où tu bois, tu vois. C'est aussi fait pour, parce qu'ils servent de l'alcool. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est hyper mal vu. Enfin, en tout cas, on se fout de la gueule des gens qui traînent au PMU. Mmh. Les darons qui traînent au PMU, c'est les alcooliques du coin. voilà. Mais aussi, ça renvoie à... Enfin, c'est pas que c'est des gens qui boivent, c'est que ça renvoie à une certaine classe sociale, en mode le PMU, c'est les classes...
C'est les ouvriers après le travail.
Ouais, voilà, tu vois, c'est les classes populaires.
Tu vas avec les collègues, tu payes ta tournée.
Après... ou un truc, hein. Avant, parce que en parlant de tout ça, ça vient de me rappeler un truc, mais genre quand je faisais là tard l'époque les testeurs Covid, et ben on allait dans toutes les petites villes là en Loire-Atlantique, c'est ouais. Ça, c'est le département, oui. Ça. Je suis vraiment bref. Et en gros, j'étais avec une collègue à moi du coup, et on habitait au même endroit, du coup, elle me prenait en covoiturage pour aller au lieu qui était parfois genre à une heure et quelques de route d'ailleurs. Bref, on n'a pas un si grand département que ça. Et c'était un jour où on allait dans une petite ville, genre vraiment un peu paumée et tout. Et on est arrivé trop en avance et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va prendre un petit café. Et le seul truc qui était ouvert, qui servait du café, bah du coup, c'était le PMU. Et on est arrivé, bah tu sais, deux petites, moi j'avais genre 18 ans, elle avait genre la trentaine, je crois. Et en mode. On arrive, bonsoir. Non, bah du coup, bonjour. C'était vraiment, il était 7h du mat. Enfin, 8h, je sais pas, bref. Et on était en mode, bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir un petit chocolat chaud, un petit café, là. Du coup, on se pose et tout, et il y avait genre quelques habitués qui étaient là, mais...
Des vieux loups de mer.
Bah ouais, c'est vraiment des vieux loups de mer. Genre, tu sais, ils avaient l'apparence, petit chapeau, grosse veste, là, tout en mitouflé, parce que du coup, il faisait froid, bref. Mm-hmm. Détail.
Oui, j'adore.
J'adore détailler mes histoires, ok. Et eux, ils étaient déjà au vin blanc, quoi. Il était 8h du mat, quoi.
Ouais, je vois.
Je sais pas, ça m'avait fait rire comme anecdote, et je trouvais que du coup, bah, le lieu, le PMU, on voit ça comme machin, et
mais carrément.
Habitués et tout, ouais. Je sais pas.
J'avais grave croisé avec le genre cette réflexion-là, parce que c'est une histoire, pas du tout, j'allais dire similaire, mais en fait, c'est juste le lieu du PMU qui est similaire. Mais en fait, avec mon ex, on revenait de la plage et on avait un peu de temps à attendre avant de prendre notre bus. Et on est allé au PMU du coin, qui était celui de mon grand-père, où il prenait un demi de 16 tous les soirs avant de... Bref, ouais, ça arrive. Et donc, on était là, deux petites meufs, tu vois, à prendre des gros verres de pinte, etc. Et en fait, le reste de la population qui consommait, c'était vraiment les personnes qu'on vient de décrire, donc des hommes d'un certain âge, 50 ans passés, un peu bedonnaires, le nez un peu rouge, voix forte, et tout le monde se connaissait, quoi.
Ouais.
Et du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis vraiment sentie comme une outsider.
Ok, Baker. C'est le sociologue qui a écrit « Outsider
». Howard Baker.
Howard Baker.
Ça me fait penser aussi, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le bar, c'est normal de boire au bar parce que c'est fait pour. Mm. Mais il y a aussi, tous les bars ne sont pas vus pareil aussi.
Mm. Ouais, carrément.
Mais c'est vrai.
Même entre nous, on se le dit, il y a des bars où on ne veut pas aller parce que... lui, il n'y a que des bourgeois ou il n'y a que des fachos, il n'y a que des gens de droite. Donc ça dépend aussi. Et puis tu le vois à la clientèle et à ce qu'ils boivent eux aussi, d'ailleurs, pour revenir sur l'autre débat. Mais je voulais juste rajouter ça. Ça dépend aussi du bar, parce qu'on ne va pas dans tous les bars non plus. On se renseigne un petit peu sur la population qui y va aussi. Genre, on se mélange pas.
Ouais, si ouais, on parle de nous, on va vraiment que dans un seul.
Bah oui. Pitié. Et dès qu'on en propose un autre, c'est
non.
Non. C'est non.
C'est la maison.
Je connais pas.
J'aime pas.
Et oui, avec nos copains là, pitié. Ils sont... Ah.
Notre bar chéri.
Bref. Il y en a, il y en a des loups de mer aussi dans
ça. Mais ah, c'est sûr. Ah, rien pour ça. Un, là.
Ouais, ah ouais. Deux,
3,
4, il y en a plusieurs. Hein.
Nous.
Ah bah il y en a un justement, c'est vraiment la figure parfaite parce qu'à chaque fois qu'on y va, il se prend un plaisir à nous rappeler qu'il est syndiqué, ouais. Qu'il travaille, ah, et oui. Nanana, et bonnet rouge, et blablabla.
Bah, il fait beaucoup penser à mon père. Hein.
Ah ouais.
Je lui dis à chaque fois.
Oui, c'est vrai qu'il est facteur aussi.
Il est facteur en Bretagne, c'est un habitué des bars.
Ouais.
Chaque fois, il me fait penser à mon père. C'est dingue.
Voilà. D'ailleurs,
Patrick.
En parlant de ça, parce qu'on a dit que, comment dire, la façon dont on boit et dont, enfin, les représentations qu'on a et tout varient selon plein de facteurs. On a parlé du genre, on a parlé de la classe sociale, machin. Mais comme tu l'as dit, en introduction aussi tout à l'heure, Solwenn, il y a un truc géographique en tout cas, enfin région, localité et tout. Bon, ici en Pays de la Loire, je pense qu'on est passé numéro un parce qu'il y a un département en particulier qui.
La Vendée.
Ouais. c'est ça. Qui abuse un peu sur la boisson.
Mais l'abus, qu'est-ce que c'est aussi.
Mais en vrai, la Bretagne, on est pas mal connu pour ça aussi et on en parlait avant de faire le podcast. Enfin, dans les familles bretonnes, moi de mon côté, Ninog aussi, Solwenn aussi, je crois.
Mère,
et du coup, Juliette, nous toutes,
mère,
voilà. En fait, il y a des alcooliques partout dans les familles bretonnes.
Après, moi, je crois que du côté de ma mère, il n'y a pas d'alcoolique, juste on est bon vivant. Voilà.
Ouais, oui c'est ça, si ça boit, ça boit.
Ouais. Ça boit.
Non, mais enfin, voilà, c'est aussi un truc. Ouais.
Bah, oui.
Marque de fabrique, quoi.
Bah oui, c'est ça. Surtout dans les petits patelins en Bretagne.
Ouais.
C'est un peu leur seule occupation, picoler entre copains, après le travail.
Mais en même temps, enfin, je sais pas quelle est la première fois, enfin, à quel âge vous avez commencé à boire de l'alcool, mais moi personnellement, quand on a commencé à me faire goûter de l'alcool, c'était relativement tôt. Enfin, évidemment, en Bretagne, on commence souvent par le cidre.
Bah, oui, hein.
Mais enfin, je veux dire, c'est un truc qui était accepter, c'était un truc de bon copain, quoi.
Ouais.
Allez, Serge, tu vas bien la laisser finir ce petit verre de rouge, tu vois. Genre.
Faut qu'elle y prenne goût.
Comment ?
Faut qu'elle y prenne goût.
Oui, bah oui, forcément. Bah, moi, je pense que c'était 11-13 ans, quoi, un truc comme ça. Hein.
Première fois que tu bues de l'alcool ?
Ouais.
Ouais, mais moi, je pense que c'était. Enfin, j'en ai aucune idée en vrai, mais c'était vers ces eaux-là aussi, je pense. Enfin, en tout cas, c'était jeune qu'on me fait goûter les premiers verres de cidre et tout, quoi.
Moi, c'est plus tard quand même.
Pas plus tard, ouais.
Ah ouais, genre collège et tout.
Mais après, tu sais, c'était pas.
Oui, genre en mode picolé.
Oui, mais voilà, j'avais le droit à mon petit verre aussi, quoi. En mode
pas moi, quand même pas.
Ouais, si, moi aussi, pareil que toi, mais genre peut-être plus
pour
tard,
les fêtes.
Genre, ouais, 14-15, mais genre pour les anniversaires. Oui. Un tout petit fond, quoi, tu sais.
Oui, juste les soirs.
Ou alors, on mettait quand les adultes, ils buvaient genre du mousseux. Moi, j'avais le droit à un peu de mousseux dans mon jus d'orange.
Ah ouais, ok.
Mimosa.
Exactement, mimosa.
Et moi, je crois que du coup, la toute première fois que j'ai bu de l'alcool, la team, c'est quand je suis née. Voilà.
Ah bah oui.
Merci, mamie.
Ah mais oui, c'est vrai.
Mais en gros, dans ma famille, il y avait une tradition. Enfin, à côté de ma mère, du coup, enfin, on a... Je sais pas où est-ce que... Ah non, c'est juste ma grand-mère qui se ramenait avec une bouteille de champagne, en fait. Mais peu importe là où ça a couché, bref. Parce que du coup, je suis née à Toulouse et ma grand-mère vient de Bretagne. Et je crois qu'elle a fait le trajet vraiment pour l'accouchement de ma maman. De moi, du coup. Et en mode, elle était là, tu tapes bouteille de champagne, et j'avais le droit, enfin, du nez, j'ai eu une goutte de champ sur les lèvres, quoi.
Ouais.
À peine une heure, la gamine.
Obélix, c'est la potion magique.
Bah, ça me fait penser encore à mon père, encore. Ou quand ma mamie, elle lui mettait une petite goutte de rhum dans le biberon pour qu'il dorme bien le soir, quoi.
Mais ça, c'est fou.
Ouais.
Bah, ça, c'était souvent. Hein. Ouais. Alors, je trouve ça dingue.
C'est vrai qu'en France, on a vraiment des trucs comme ça. Je sais pas si c'est partout ou pas, mais même à la cantine, le vin avant.
Il buvait du vin à l'école.
Ouais, mon grand-père, mon père, il buvait du vin, je crois, à l'école.
Mais oui.
Mais c'est parce que je crois que l'eau était polluée, un truc comme ça.
Du coup, on va leur foutre.
C'était moins dangereux en vrai de faire boire du vin que de faire boire du. Mais je crois que c'est un truc comme ça.
Je crois.
Moins dangereux, en tout cas, dangereux différemment.
Les données historiques trop belles.
Non, mais je pense que c'était surtout parce qu'avant, on n'était pas aussi alerte sur les dangers de l'alcool.
Oui, c'est sûr.
Je pense que c'est aussi pour ça.
Oui, et du coup, le bail là de quand est-ce qu'on a commencé à boire, coup,
à la naissance,
et après, je crois que c'est pareil que vous, genre 13-14 ans, soirée avec les cops, au collège, 14, mais genre vraiment les premières soirées, mais sinon, petit verre machin chouette. Et pour en revenir à l'histoire du champ, Ah, vous savez pas où je parle, là.
Non.
Il y a le truc, là, en mode... Enfin, nous, c'est pour les grandes occasions qu'on boit du champagne, genre Noël, anniversaire peut-être, les naissances. Mais en mode, il y a aussi ce truc de classe où en mode, bah, en classe pop moyenne, tu sais, tu bois le champagne aux grandes occasions, mais les classes sup, ils en boivent en terrasse, comme ça, tranquillou.
Ouais.
Tu bois ton petit champ avant d'aller à ton RDV que t'as plan avec... tu connais
Chaumet
avant le call.
Yeah.
Bref. Et du coup, voilà. Enfin, il y a grave ce truc de... Bah, ce que boivent les classes. Enfin, on est en mode bah, la bière populaire, bah, champagne,
ouais,
supérieur,
ouais,
etc.
Bah, déjà, ça se voit rien compris. Hein.
Oui.
C'est pas n'importe quel champagne en plus qu'ils boivent.
Ouais. Ouais. Ouais, oui, c'est sûr.
On peut pas se permettre.
Oui.
Ok, et eh bien, superbe. Avez-vous quelque chose à rajouter?
Moi, ça ira. À part que j'ai hâte d'aller boire ma petite tarte au bar.
Voilà. Après ce super podcast, on va aller au bar.
Ça
donc,
voilà.
Il n'y a pas d'alcool. Non, faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait.
C'est ça.
Je vous remercie pour ce moment. On va se retrouver en février car il n'y aura pas de...
d'épisode en janvier.
D'épisode en janvier, effectivement, pour des raisons très légitimes qui sont les examens.
Oui.
Et donc voilà, merci encore de nous avoir écoutés. Merci à Juliette d'être venue pour cet
merci
épisode.
Merci à vous, c'était trop bien. Peut-être que je reviendrai. Pas,
avec plaisir.
Pas.
Et bah, à bientôt.
Bisous et bon verre.